Ça y est, on est dans la deuxième heure de Sweet Home Chicago. Voici Gaël Musvel dans son tout nouvel album, c'est Your Journey. L'album Your Journey et le titre Your Journey, justement, c'est avec ça que s'ouvre le tout nouvel album de Gaël Musvel. Gaël, bonjour.
Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Ah ben, en tout cas, ici, ça va, de ce côté-là de la Seine. Et toi, dis-moi, à Paris, il fait beau?
Oui, bah, écoute, c'est génial, j'ai l'impression d'être en vacances, il y a des rayons de soleil qui commencent à pointer leur qui commencent à pointer le bout du nez, tout, ça fait plaisir.
Ça serait pas un petit peu le printemps par hasard, Gaël, dis-moi.
Voilà, c'est ça.
Bon, très heureux de te retrouver à la radio. C'est la 7e interview ensemble, figure-toi, en 10 ans, j'ai fait le compte. Du moins, du plus profond que je puisse remonter dans mes archives. C'était pas à l'époque Camon, c'était à l'époque de l'album Yesterday Shadows en 2011, la première fois. Tu étais revenu en 2012 pour un concert au Sous-Bock. En 2014, pour nous présenter l'album Black to Blue. En 2015, pour un nouveau concert au Sous-Bock. En 2016, pour ton actualité. En 2017, pour New Days Waiting. Et aujourd'hui, 17 avril 2021, pour cet album Your Journey. Gaël, est-ce que tu me permets de faire une présentation rapide de toi à nos auditeurs ?
Ah bah oui, parce que je pense que depuis 10 ans, du coup, tu me connais par cœur. Là, j'ai plus rien à dire. C'est toi qui me connais mieux que moi, peut-être.
Il y a eu surtout, je pense pas quand même, il y a eu surtout pas mal de choses nouvelles, et notamment depuis la dernière interview, il y a 4 ans. On peut dire que tu as fait de nombreuses premières parties prestigieuses. Je vais faire une liste, là, on va voir. Beth Hart, ZZ Top, Ringo Starr, Johnny Long, M, Vintage Trouble, Status Quo, UB40, Louis Bertignac, Trian, James Hunter Six, The Pretty Reckless, Tyler Hilton, enfin voilà. Et peut-être en 2021, Deep Purple au printemps de Pérouge, hein, il paraît.
Oui, on croise les doigts, on va voir comment ça se passe suivant la crise sanitaire, mais c'est vrai qu'on aimerait bien que ça se passe.
Gaël, tu as obtenu de nombreux prix également, prix Cahors Blues Festival en 2015, le prix All That Jazz la même année, le prix France Blues en 2016, le prix Révélation Française Cognac Blues Passion en 2016, un prix au tremplin des Rendez-vous de l'Herbe en 2016, je m'en souviens, tu as été finaliste à l'European Blues Union en 2017, et puis également un prix un petit peu inattendu, le prix du meilleur clip à Azalea Film Fest dans l'Alabama en 2018. Voilà, il y a plein de choses qui se sont passées durant cette décennie, hein, depuis la première fois qu'on s'est parlé ici sur le 666. Tu as joué partout en France, mais aussi au Royaume-Uni, en Allemagne, en Suisse, en Pologne, en Hollande, aux États-Unis, au Japon, en Polynésie. Je pense que la liste n'est pas complète encore.
Il nous reste encore pas mal de pays à faire. Hein. J'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir aller partager notre musique un peu partout aussi.
Ouais, ça fera partie des questions que je vais te poser, bien sûr. On peut dire que ta musique, elle n'est pas à proprement parler cataloguée. Elle oscille principalement entre le blues, la country, le rock. Mais ce qu'il faut retenir de tes prestations scéniques, outre l'inventivité de tes compositions, c'est d'abord la formidable énergie que tu donnes à ton public, ton sens du contact, ta disponibilité, ta gentillesse, ton optimisme aussi à toute épreuve qui t'a permis de gravir pas à pas tous les échelons vers la célébrité, la reconnaissance plus large de tous tes talents, en fait. Hein, voilà. Il s'est passé plein de choses. Tu es monté petit à petit dans le cœur de tes fans, qui sont de plus en plus nombreux, dis-moi.
Ah bah oui, non, je suis très très touchée de tout ce que tu dis, parce que du coup je réalise un petit peu aussi le parcours qu'on a fait, parce que c'est vrai que des fois on a la tête dans le guidon en disant de bosser sur un projet comme ça, à développer, à maintenir tout ça avec mon équipe. Du coup ça m'en coupe là, j'en perds les mots, en fait.
Non, c'est bien de toi que je parle, Gaëlle Busvel, on est d'accord.
Non, mais c'est vrai que c'est super, parce que bah oui, nos fans, c'est vrai que la fanbase s'agrandit au fil du temps, au fil des concerts, au fil de cette aventure, au fil des albums, et du coup moi je suis toujours très très reconnaissante des gens qui nous suivent, parce qu'aujourd'hui si on existe de cette façon-là, c'est grâce au soutien de tous nos fans, toutes les personnes qui nous ont soutenus depuis 10 ans et qui nous ont aidés à réaliser aussi nos albums de cette façon-là. Donc ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui est la relation, oui, avec le public, avec les fans, c'est quelque chose qui est hyper important dans cette aventure.
Voilà, et effectivement, les fans, il y en a également de ce côté-ci de l'Internet. Il y en a qui te suivent, qui nous écoutent à la radio, et puis qui également te suivent sur le Facebook Sweet Home Chicago. Tu as des bonjours d'un petit peu tout le monde, notamment Thierry Langrand avec Sweet Sunat, Arnaud Didier, Maryse de Coninck. Voilà, des gens qui te suivent. Le petit Michel Benjeloun également est connecté. Voilà,
Coucou Michel. Il va y avoir l'équipe. Je fais un gros bisou aux garçons. S'il y a JB de connecté aussi.
Il y a Stéphane, enfin il y a plein de gens. Et alors une question très sérieuse de la part de Thierry Langrand, parce que j'ai proposé aux gens, tu sais, de te poser quelques questions.
Oui.
Est-ce que le rhum fait encore effet?
C'est la question piège. C'est la question piège. Oui, parce que je l'ai eu tout à l'heure. J'ai eu Thierry et Nat et je leur disais que depuis un moment, ça fait longtemps que j'avais pas fait une petite soirée. Et c'est vrai que j'ai fait une petite soirée hier avec des amis en comité restreint, et du coup on a goûté du bon rhum. Voilà.
Bon, bah, tu nous donneras
un peu du rock'n'roll des fois.
Ouais. Tu nous donneras l'adresse du comité restreint, effectivement. On va essayer de remettre tout ça dans l'ordre. C'est vrai qu'il y a des questions par rapport à ton nouvel album, mais je crois que ce sera un petit peu plus tard dans l'interview. Est-ce que pour les quelques rares 3 ou 4 personnes qui ne te connaîtraient pas encore, tu peux nous parler de ton arrivée à la musique avec des parents mélomanes, je crois. Enfin, en tout cas, tu as été très, 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 très suivi par tes parents pour tous les aspects de ta carrière. Mais ta mise à la musique, elle s'est passée quand ?
Oui, alors c'est vrai que ça remonte à longtemps parce que c'est vrai que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient des gros fans de musique en fait. Tu vois, c'était un peu des hippies des années 70, donc ils ont grandi avec toute la période de Woodstock, de cette période des années 60-70, du rock, du blues. Ils écoutaient Led Zeppelin, Janis Joplin, Neil Young, il y avait Bob Marley, il y avait les Beatles, enfin il y avait pas mal de ces influences là et c'est vrai que du coup comme c'était des passionnés de musique, moi j'ai grandi en fait là-dedans, donc c'est vrai que du coup je suis très très heureuse d'avoir eu la bonne culture musicale au bon moment peut-être.
Et puis effectivement les années 70, enfin principalement, et j'ai envie de dire que ça continue à te coller à la peau, pas forcément, enfin peut-être un petit peu moins dans le nouvel album, on en parlera tout à l'heure, mais ce sont des sonorités qui continuent à t'influencer.
Oui, et puis même avec toute l'équipe aussi, parce que c'est un album sur lequel j'ai énormément collaboré avec toute mon équipe. Donc on a tous des influences de ces périodes-là, donc qui sont des fois un peu différentes, mais en fait au bout du compte qui se retrouvent et c'est vrai forcément, on peut sentir des fois, on peut pas renier les influences avec lesquelles on a grandi, puisqu'elles font partie de nous, donc forcément on les ressent à un moment donné dans ce qu'on fait musicalement.
T'as vécu en Angleterre à un moment d'ailleurs, Gaëlle?
Oui, j'ai vécu en Angleterre, alors pas si longtemps que ça, hein. J'ai vécu 4 mois en Angleterre, mais ça a été assez révélateur parce que j'étais partie j'ai une de mes meilleures amies qui vivait là-bas, qui m'a dit allez viens avec ta guitare, et puis j'ai arpenté les cafés-concerts toute seule de tout Londres et de la banlieue de Londres, et c'est comme ça que je me suis un petit peu rodée au départ. Quand il fallait jouer en live les premières compos c'était des premières ébauches, et je sais que j'allais jouer un petit peu partout, et ça m'a énormément poussé en fait à développer aussi mon projet, cette petite aventure à essayer de me roder toute seule en guitare. En fait.
Petite aventure. Bon, on peut parler.
On se lance dans la gueule du loup, hein, c'est ce qui fait qu'on on grandit.
Ben oui, puis on n'arrête pas de grandir. Le groupe Camon, qui est la formation avec laquelle on avait fait ta connaissance ici au Souboc en 2007, est-ce que tu as toujours des contacts avec Ty Deval, avec Tan Devan, avec Aurélien Jeunesse?
Mais oui, parce qu'en fait, c'est une grande aventure aussi, cette aventure Camon avec les garçons, parce que moi, c'était mon premier groupe de composition. Ouais. Et on a tous eu des chemins différents. Voilà, moi, je suis la seule à avoir continué vraiment à développer mes projets en musique, mais on est tous restés en très, très bons termes. Ils suivent tout ce que je fais. Et puis, on sait qu'à un moment donné, moi, j'aimerais bien réussir à refaire au moins un titre avec eux, même juste pour le plaisir, quoi, parce que c'est vraiment des garçons en or. Et j'oublierai pas, je peux pas oublier tout ce qu'on a vécu. Nos premières date au Souboc, c'est avec la team Camon, donc c'est des très très bons souvenirs qu'il y a, et ils font toujours partie de ma vie, cette team-là aussi.
Effectivement, pourquoi pas des invités sur un prochain album avec Ty, Tan et Aurélien. Au Souboc, tu avais fait la rencontre indirecte de Neil Black, d'ailleurs, avec qui tu as ensuite travaillé. Est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration avec Neil Black à l'époque?
Alors avec Neil Black, c'est quand même un truc incroyable, parce que vraiment, moi, tout ce qui a été lancé, ma carrière, le départ de ma carrière, elle se passe en fait vraiment avec ce qui s'est passé ce soir-là en fait au Souboc. Quand on jouait avec Camon, je me rappelle, il y avait le petit leaflet du Souboc avec tous les groupes qui passaient, et c'est comme ça que j'ai découvert Neil au départ, parce que je ne le connaissais pas. Et en fait, je suis allée écouter tous les groupes qui passaient le même mois que nous au Souboc, et je me rappelle à l'époque c'était MySpace,
et
il avait une chanson qui s'appelait Rose, je me rappelle plus du titre exactement, et j'avais adoré cette chanson, et je lui avais envoyé un mail et je lui avais dit c'est génial, j'ai découvert ta musique par le biais du Souboc, parce que j'y joue aussi, je suis très heureuse d'avoir découvert un super artiste de blues par le biais du Souboc. Et puis là, dans la plus grande, je pensais pas du tout qu'il aurait répondu, parce que je le voyais comme un artiste américain.
Mais c'est un artiste américain
sollicité. Oui. Et puis il m'a répondu, il m'a dit, écoute, ta voix, j'adore ta voix, est-ce que ça te dit qu'on passe un projet ensemble? Et j'étais là, sur le coup, je reçois ce mail-là, et je me dis, mais attends, c'est pas possible.
C'est bien à moi qu'on écrit.
ouais, c'était hallucinant, et en fait, c'est parti de là. Un mail envoyé via MySpace, il y a plus de 10 ans, on a commencé cette première collaboration avec Neil. Donc je lui avais envoyé des ébauches de ce que je faisais, guitare-voix, et on a commencé à travailler un peu à distance. Et puis après, quand il passait sur Paris, on se retrouvait à mi-chemin dans des salles de réunion, dans des... comment dire, dans des lieux où on pouvait un peu bosser la musique. Et puis on a fini en studio par enregistrer des titres. Au départ, on devait enregistrer que 5 titres. Et on a fini par enregistrer un album qui a donné le premier album, Yesterday Shadow. Ouais. Et qui a été vraiment le démarrage de toute mon histoire, de toute mon histoire, voilà, sous Gaël Boswell, en fait. Et je l'appelle toujours mon papa spirituel de la musique, Neil, parce que il a eu un impact très très fort sur le fait de me lancer, entre guillemets, de lancer ma carrière, entre guillemets, solo, quoi, sous mon nom. Et il m'a vraiment poussé à ça. Donc je suis vraiment très 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 honorée d'avoir croisé le chemin de Neil. Et même encore aujourd'hui, on sait qu'on va recollaborer ensemble, on parle de certains projets qu'on aimerait faire.
C'était l'album Yesterday Shadows, tu l'as dit, c'était la période avant Michel, hein, tu jouais de la guitare déjà, bien sûr, et puis c'était Neil qui assurait toutes les leads guitare sur ce disque-là, avec des musiciens qui ne font plus partie de ton équipe maintenant. C'est vrai qu'on parle d'un album qui est sorti il y a une bonne dizaine d'années, il s'est passé plein de choses depuis, et au hasard de ta biographie, je suis retombé sur un truc, je ne sais pas si ça va être amusant ou quoi, mais je voulais t'en parler. En 2018, une expérience en Arizona est particulièrement marquante, je crois. Good Morning Arizona, tu peux nous en parler de ça?
Ah là là, mais c'était génial, parce que je me rappelle, alors c'était en 2018, c'était une sacrée expérience, parce qu'on avait eu la chance d'avoir cette tournée organisée par un producteur français qui s'appelait Alain Ouzé, qui a monté toute cette tournée-là, et je me rappelle, on avait pas mal de dates, et avec Steve Belmont, on était parti une semaine plus tôt pour faire de la promo, et on a ce truc qui tombe, on nous dit, ben voilà, j'ai l'opportunité de vous faire Good Morning Arizona. On était là, tous les deux, on a dit, allez, ok, on fonce, on est parti en guitare et percussion faire Good Morning Arizona. Donc c'était assez impressionnant, parce que là-bas, c'est le TF1 de la France, quoi. Enfin, ouais, c'est vraiment une très très grosse émission qui passe en Arizona, et ça s'est très bien passé. C'était moi, j'étais hyper émue, c'était hallucinant, et c'est marrant parce que je me rappelle, quand on est ressorti de cette émission, on a été au Starbucks qui était juste à côté, il faisait une chaleur pas possible, alors on s'était changé au Starbucks, parce que voilà, on avait mis des fringues super cool pour l'émission télé, mais dehors il faisait 150 degrés.
Comment ça il fait chaud en Arizona? Tiens, un petit tease pour notre ami Thomas qui a vécu en Arizona. Il fait pas chaud là-bas, ça brûle partout, tu peux rien toucher, c'est ça l'idée?
Ah oui, non, c'est sûr, non, mais c'était hallucinant. Et je me rappelle justement ce moment où il faisait tellement chaud au Starbucks, du coup on prend une petite boisson emportée, et puis on commence à sortir, et là on se fait klaxonner par des voitures qui s'arrêtent et qui nous disent, on vient de vous voir passer à la télé dans Good Morning Arizona. Et nous on était là en mode, ah bon, parce qu'on s'est dit, bon, on n'est pas connus, donc les gens ils vont pas faire attention, et on se faisait klaxonner dans la rue. C'était les gens, ils passaient avec leur 4x4, ils klaxonnaient, je vous ai vu, je viens de vous voir passer à la télé et tout. C'était dingue.
Ça m'amène à la question d'après, par rapport au partage de la musique. Tu as chanté dans des lieux différents, parfois des lieux atypiques, bien sûr, dans des bars, dans des restaurants, dans des salles de concert, évidemment, sur des grosses scènes de festivals, mais aussi dans un centre de détention, dans des hôpitaux pour enfants.
Oui.
Et pour toi, la musique, c'est d'abord quelque chose qui se partage, j'ai l'impression. Tu donnes sans compter. Est-ce qu'on peut dire que la générosité, c'est un de tes talents, c'est un de tes moteurs?
Alors, ben je sais pas. C'est très gentil de dire ça. Je sais pas. En fait, ça fait partie de moi, ce truc de la musique. Ça a toujours été quelque chose du partage. Enfin, moi, je sais que la musique, des artistes que j'adore, il y a des chansons, des albums qui ont marqué des moments très importants de ma vie, qui m'ont même aidé des fois dans des moments super, comme dans des moments hyper difficiles. Des choses où ça m'a, voilà, ça m'a sauvé de certaines choses, ça m'a motivé sur d'autres, ça m'a fait du bien sur d'autres. Et je pense que la musique, elle a ce rôle-là aussi de donner sans compter, en fait. Parce qu'une chanson, une fois qu'elle est composée, qu'elle est écrite, qu'elle existe, une fois que nous on la chante, qu'on la livre sur scène ou qu'elle est sur un album, elle ne nous appartient plus, en fait.
D'accord.
Et du coup, pour moi, c'est important. C'est vrai que je dis toujours que la musique, elle n'a pas de frontières. Donc c'est pour ça qu'on s'est retrouvés souvent à jouer dans différents lieux, dans différents endroits, même, voilà, que ce soit les centres de détention et les hôpitaux. Parce que on se dit que nous, notre musique, elle n'est pas là pour juger les gens, en fait. Elle est là juste pour être transmise, pour apporter des choses. On espère des choses positives pour les gens. Et du coup, il n'y a pas de limite, en fait, à ça. Moi, c'est vraiment quelque chose qui se partage. Et je dis toujours, ouais, il n'y a pas de barrière. Nous, on arrive à toucher un public où il y a tous les âges, toutes les cultures, toutes les catégories socio-professionnelles, toutes les... toutes les sexualités. Enfin, c'est vraiment, c'est pour moi, c'est un point où on arrive à tous se comprendre sans jugement. En fait.
Ouais, la musique, c'est une grammaire universelle, effectivement. Et puis
exactement,
on parlait de.
Bien dit pour un prof.
Merci. On parlait de lieux atypiques. Tu as chanté dans le métro aussi, dans des gares, dans la rue. C'est quelque chose que tu adorais faire. Est-ce que c'est le genre de choses que tu pourrais refaire après la pandémie, Gaëlle?
Avec grand plaisir. Après, ouais. Voilà, on va voir avec la crise sanitaire comment ça se passe. Ben, ce que j'avais trouvé intéressant, c'est vrai, quand on a joué dans les gares avec Michal, on les faisait en duo. C'était une expérience super aussi parce que ce qui est important aussi dans la musique, c'est quand on va livrer des compositions, aller toucher des gens qui ne nous connaissent pas, en fait. Et du coup, on voit le vrai impact avec la musique, comme dans le métro.
On voit
vraiment ce que ça peut apporter, la façon dont le partage, la sincérité, l'émotion, à quel point elle peut toucher les gens à ce moment-là. Et c'est vrai que moi j'adore, dans des situations comme ça, de se dire, voilà, quelqu'un qui ne nous connaît pas, qui courait aller prendre un train, qui s'arrête à ce moment-là, qui vit l'instant présent.
Et qui rate son train.
Parce que ça arrivait plein de fois, les gens disaient, ah là j'ai pris mon train, je suis obligée d'attendre demain matin pour un autre train.
Ah ouais.
Et merci pour ce moment-là, enfin c'était rigolo. Mais c'est de se dire, de vivre, d'essayer de, un maximum de vivre l'instant présent dans des moments comme ça. Mmh. On vit dans une ère qui est assez complexe, avec des choses qui sont pas tous les jours faciles à vivre pour les gens. Donc si des temps de pause comme ça peuvent apporter un petit souffle vers quelque chose de bien, franchement c'était cool quoi.
Un petit témoignage de la part de Alain MGC, tu sais, Alain Meunier-Gutin-Cluzel qui écoute régulièrement l'émission et qui
oui,
t'adore.
Qui nous soutient depuis super longtemps.
Effectivement,
aussi.
Et qui dit, genre, je m'en souviens, Garçon Lazare notamment.
Ah bah voilà.
Ouais, à Paris, Garçon Lazare. Alors, tu parlais de Michal, et puis j'évoquais l'absence de Michal sur Yesterday Shadow, donc vous êtes connus entre deux. Comment ça s'est fait la rencontre avec Michal Benjelloun, ton guitariste?
Oh là là, bah vous allez rigoler, parce que c'est vrai, quand j'ai fait le premier album avec Neil, Neil n'était pas disponible pour qu'on fasse les dates de concert ensemble, et puis quand on a commencé, je me suis dit, bon, bah voilà, soit je vais toute seule guitare-voix, ou il faudrait que je puisse avoir un guitariste qui puisse m'accompagner pour commencer au moins en duo, parce que voilà, c'était pas évident de pouvoir commencer avec une grosse équipe au départ. Et c'est tout bête, c'est un très très bon ami guitariste qui s'appelle Patrice Buis, qui à l'époque, je vais dit, écoute, est-ce que je lui avais proposé, je me rappelle, la première date qu'on devait faire au Sous-Bock, parce que c'était la première date de cet album-là, le 14 février 2011, du coup.
D'accord.
Ouais. Et il n'était pas disponible. Il m'a dit, écoute, je vais te conseiller des guitaristes. Je t'envoie 5 noms de guitaristes. Et puis, tu vas trouver ton bonheur. Les gars, ça va forcément leur parler et tout ça. Il m'a envoyé une liste de guitaristes. Et en fait, dedans, il y avait le nom de Michal. Il m'a dit, il y avait plusieurs guitaristes et Michal Benjelloun. Et j'ai trouvé le prénom Michal tellement cool que j'ai appelé Michal. Et ça l'a fait.
Et puis ça le fait toujours, plusieurs années après. Gaëlle Busvel, ce que je te propose, c'est qu'on écoute un nouvel extrait de ton album et on poursuit la conversation juste après. Je voudrais qu'on parle du disque et qu'on en décortique un petit peu tous les titres, si tu veux bien.
Avec plaisir.
À tout de suite.
À tout de suite.
Gaëlle Busvel dans la radio. Si vous avez des questions pour elle, c'est sur le Facebook Sweet Home Chicago.
And what are we coming to? That the morning song has faded, in the garden we once loved lies far behind.
Tell me why you keep on dancing on the
better than the rest.
Le titre s'appelle Razor's Edge, il fait partie de l'album de Gaël Buswell qui s'appelle Your Journey. Et je suis toujours au téléphone avec Gaël Buswell en direct sur le 666. Gaël, toujours là ?
Oui, je suis là. Ça y est, je suis même dans le fil d'actu des questions.
Ah, alors donc tu vas pouvoir lire les questions à l'avance, c'est ça l'idée un petit peu. Moi, ce que je voulais te proposer de faire, c'était éventuellement de reprendre chaque intro. Tu sais, voilà, l'album il démarre comme ça, hein ?
Oui.
Et puis de voir avec toi un petit peu quels ont été les choix artistiques. Et puis parce que au niveau du son, on a une production très 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 soignée hein, sur l'ensemble de l'album Your Journey. Ça commence avec un truc comme ça, Your Journey justement. Avec des chœurs très graves là derrière, et puis ta voix qui surnage au-dessus d'une intro. Un petit peu énigmatique. La construction de l'album, on va pouvoir en parler en détail. Ce morceau-là, c'est pas le genre de choses que tu faisais avant.
Alors oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu différentes sur l'album. Your Journey, c'est un titre qui a été composé par Steve Belmont. C'est un des premiers titres qu'il a composé. Et du coup, c'est vrai que sur cet album, on s'est dit c'est un quatrième album. On avait envie d'apporter des choses un peu plus poussées et aller exploiter aussi toutes les références, tout ce qu'on aime en fait musicalement. Pas se dire c'est qu'un album Americana ou quoi que ce soit. Il n'y avait vraiment pas de il n'y avait pas de cahier des charges pour cet album. On voulait vraiment se faire plaisir et tout le monde a apporté des idées. En fait, tout le monde a composé, tout le monde a écrit pour cet album dans l'équipe.
Voilà.
Ça c'était vraiment une superbe expérience.
Un travail collectif, donc Gaël Buswell guitare chant, Michel Benjeloun guitare mandoline dobro, JB Petri basse contrebasse, Steve Belmont batterie percussion, et puis également Lorient Dere au clavier qui a été un membre additionnel pour à l'occasion de ce disque là. On peut poursuivre un petit peu un petit peu plus avant avec ce deuxième extrait. Last Day. Et là, on se dit, bon, avec deux morceaux comme ça, on a affaire à un album résolument rock, mais en fait, il n'en est rien. Il y a quand même un décloisonnement des styles. C'est assez magique, je trouve. Voilà, on ne peut pas mettre d'étiquette, mais c'est tant mieux, finalement.
Ah bah, c'est gentil, merci.
C'est
toujours difficile. On nous dit toujours en France qu'il faut rentrer dans des cases pour... c'est ce que c'est là. Mais en fait, nous, on n'a pas forcément envie de rentrer dans des cases. On a envie de faire la musique qui nous plaît. Et des fois, il y a des styles qui peuvent être un petit peu différents. C'est vrai que cet album, il est rock. Il y a des morceaux qui sont pop. Il y a des trucs qui sont très, très soul. On a toujours notre aspect acoustique qui est gardé avec l'album Abbey Road. Et le côté aussi Americana sur des titres comme Promise. Et c'est vrai que pour nous, c'était important de faire plaisir sur cet album, mais sans se limiter. Et par exemple, un titre comme Last Day, c'est le seul titre d'ailleurs qu'on a co-composé quasi tous ensemble dans le petit garage de JB. C'est-à-dire Michel est arrivé avec un riff de guitare, et puis on a bossé tous les quatre sur cette composition. Quoi.
D'accord, et voilà, donc ça renforce ce que je disais tout à l'heure, le côté collectif de la fabrication, de la construction de ce disque. On est sur la troisième plage, All You Got To Do. Combien de parties de guitare sur ce titre-là ? Combien de plages superposées ? J'imagine que vous avez pu vous amuser.
Je ne peux même pas répondre à cette question. Et ce que je peux dire par contre, c'est que quand Michel il a fait certains solos de guitare, il y a les solos de guitare qui sont sur cet album, c'est des one-shots. Hein.
Ok. carrément. On poursuit avec Gaël Busvel et l'exploration de ce disque. Avec bah, le titre qu'on vient d'entendre, on va pas forcément y revenir, Razor's Edge, mais celui-ci. Je te laisse nous en parler, Gaël.
Oui, mais je te parlerai de Razor's Edge aussi juste avant, parce que comme tu l'as passé tout à l'heure, je voulais dire quelque chose.
Ah ben vas-y, alors attends, on va revenir sur Razor's Edge, ça va être beaucoup mieux. Et je te laisse nous en parler également, à titre très très soul. Hein.
Oui, 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 en fait, c'est, le, oui, c'est un des morceaux soul de l'album. Bah, une composition aussi là de Steve Belmont. Et c'était surtout que sur ce titre-là, quand on a voulu l'écrire avec Angela, c'est marrant parce que c'est un titre qui est très actuel en fait au bout du compte, parce qu'il est très soul, très très joyeux en fait dans la démarche musicale, la fin qui finit explosive et tout ça. Et en fait c'est un titre, quand on écoute bien le texte, on décortique le texte, c'est un des titres les plus tristes de l'album.
Plus sombre.
Parce que voilà, en fait, il représente vraiment ce qui se passe aujourd'hui. Dans cette chanson, on voulait défendre des choses, en fait, un peu ce qui se passe autour de nous, par rapport à l'écologie, par rapport au monde qui se casse un peu la gueule.
Et on est au fil du rasoir, effectivement, par rapport à
voilà,
tous ces dossiers-là.
Voilà, c'est ça, de se dire, est-ce qu'on continue de regarder les choses s'écrouler devant nous, ou est-ce qu'à un moment donné, on va réagir, on va essayer de changer la donne, plutôt que juste faire la fête, et puis se dire, bon, bah, c'est pas grave, on verra ça dans une autre vie, quoi.
Ouais.
C'est marrant parce que c'est une chanson qui a été écrite en 2019 et qui aujourd'hui a un impact très très fort par rapport à ce qu'on vient de vivre avec la pandémie.
Bah oui, parce que moi je me souviens quand même qu'en mars-avril 2020, il y avait pas mal de gens qui se demandaient, bon alors on fait comment après ? Est-ce qu'on fait comme avant, ou est-ce qu'on en profite pour tirer une bonne leçon de tout ça et puis polluer beaucoup moins? Je sais que par exemple sur 3 semaines de plus, la Terre a pu vivre 3 semaines de plus par rapport à 2019 grâce à ce confinement mondial finalement. Voilà, donc c'est un peu de ça dont tu parles dans la chanson.
Ben voilà, ouais, et c'est surtout de se dire, on espère que les gens vont tirer des leçons de ce qui s'est passé, mais bon, on sait très bien la vie comment elle est, on l'a vu à la réouverture du premier confinement, les gens vivent des choses très très fortes, et puis après on reprend vite aussi nos mauvaises habitudes. Donc il faut voir si sur le long terme, ça va pouvoir changer les choses. En tout cas, cette chanson exprime bien ça, quoi, presque.
Ouais. On va poursuivre avec la plage suivante. J'ai un petit problème de table de mixage, pour être tout à fait honnête avec toi. On n'est pas au studio d'Hérouville, on est au studio d'Hérouville Saint-Clair. C'est pas le même. A rose without a thorn.
Walking these city streets, another endless day.
Ça fait partie des chansons qui ont été créées avec Angela Randall du groupe Lux, avec Sylvain Laforge. Comment ça s'est passé, cette collaboration avec Angela? Je sais que c'est pas d'hier, hein, déjà, dans l'album précédent, on a écouté...
On avait commencé à travailler ensemble sur l'album Black to Blue, déjà, et puis vraiment, on a vraiment commencé à travailler, après vraiment travailler ensemble sur l'avant-dernier album, New Day's Waiting, et moi, c'est une parolière que j'adore, et c'est vrai que dans l'équipe, j'aime collaborer avec les gens que j'aime, et les gens qui, en plus, qui me connaissent par cœur, donc c'est beaucoup plus facile pour travailler ensemble, et en plus elle a une plume qui est très fluide, elle arrive souvent, je le dis souvent comme ça, elle arrive souvent des fois à calmer mes mots, parce que moi je suis très brute de pomme, et des fois elle arrive à enjoliver un petit peu plus certaines choses quand on coécrit ensemble. Et là sur ce titre là, Road Without a Thorn, c'est une chanson qui a été dans les paroles inspirée par les enfants de Michal, par les filles de Michal.
D'accord.
Quand il a composé ce titre, il a une de ses filles qui s'appelle Rosie, et du coup c'est une dédicace un peu pour une de ses jumelles.
Tu as fait figurer toutes les paroles du disque entier dans un petit livret, hein, qui est dans ce booklet, qui est superbement réalisé, il faut le souligner. Un autre morceau sur lequel intervient également Angela, mais également Steve, Michal et puis toi, bien sûr, Perfect Foil. Avec là-dessus, comme sur le morceau d'entrée, puis le deuxième aussi, je trouve un gros travail de la part de Steve aux batteries. Enfin, à la batterie, voilà, monstrueux, moi, je trouve. Hein. On attend une version live de ce genre de choses, en tout cas, je peux te dire.
Bah, écoute, vous l'aurez, hein. J'avoue, c'est vrai, Perfect Poil, c'est un titre qui me tient beaucoup, beaucoup à cœur, parce que c'est un texte qui avait été écrit il y a pas mal de temps avec Angela. Et quand je suis arrivée, moi, avec mon petit guitare-voix, quand j'ai composé ce titre-là, j'avais plein d'idées en tête, et les garçons ont réussi à vraiment mettre bien ça en avant, parce que c'est un de mes textes préférés, en fait, de l'album, qui est très très fort, en fait, sur l'échange de l'amour que les gens peuvent avoir, en fait, l'amour inconditionnel et le combat qu'on peut avoir d'aimer quelqu'un dans toutes les circonstances, en fait, et dans tous les combats qu'il peut y avoir, peu importe voilà, la situation, la couleur de la peau ou quoi que ce soit, en fait.
D'accord. Le suivant s'appelle Just Like the Wind.
Just like the wind, there are times in this life.
Et ça, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un morceau qui aurait pu figurer à mes oreilles, à mon humble avis, dans Yesterday Shadows, pourquoi pas.
Ah, mais c'est possible. En fait, c'est un morceau que j'avais commencé à composer guitare-voix et qui a été avec qui j'ai collaboré avec Sylvain Laforge, en fait, sur cette composition à la base. Et du coup, c'est vrai que c'était ça rejoignait un peu mes premières influences, parce qu'il était très folk, le morceau, au départ, en guitare-voix. Et c'est pareil, c'est un texte qui parle, qui est dans la continuité un peu de Last Day aussi, parce qu'il y a eu des moments très très forts, en fait, au moment de l'écriture de cet album-là, des choses difficiles que l'équipe a vécues, des gens qu'on aime et qui sont partis beaucoup trop tôt. Et on a voulu un peu écrire les sentiments qu'on pouvait avoir par rapport à ces situations-là aussi. Et Just Like the Wind parle beaucoup de ça, en fait. D'accord. Voilà, de la fragilité qu'il peut y avoir, de certaines situations à vivre. Et puis des fois, de se détacher de ça et de se dire, bah voilà, peu importe des fois le combat qu'il va y avoir, on continue, on tient. Et puis parfois, il faut laisser partir les choses, tout simplement.
Les choses ou les gens, parfois aussi.
Exactement. À chaque fois que je la chante.
J'imagine. On est ensemble, Gaëlle, en direct avec cet album qui s'appelle Your Journey. J'ose pas imaginer ce qui s'est passé le jour où tu as découvert l'objet album, quand il est arrivé sous carton chez toi, ou quand tu allais le chercher, je sais pas. Enfin, en tout cas, quand tu l'as découvert, parce que ça a été le fruit d'un très très long travail.
Oui. Bah, écoute, on a travaillé plus d'un an et demi sur cet album-là. Il y a eu des compositions comme Perfect Lullaby et Promise qu'on avait commencé à jouer même en live en 2018. Donc tu vois, il y avait eu déjà des compositions qui avaient été mises en avant tout au long de notre tournée, en fait.
Ouais, c'est pour ça que par exemple Perfect Lullaby, je me souviens que tu avais dû le faire au Sumoc lors de tes dernières venues.
Oui,
c'était en novembre 2019.
Ouais. Oui, exactement. Et en fait, c'est vrai que ce bébé-là, il a été enregistré en 2019, il était prêt à sortir en 2020.
Et oui.
Il est pas du tout, on a reporté plusieurs fois cette sortie d'album. Et puis on a pris la décision après au mois de mars de le sortir. Et en plus, il y a eu la superbe collaboration avec la maison de disques Records pour le sortir. Et c'est vrai que du coup, c'est la plus longue gestation d'un album, en fait, à sortir, parce que cet album, on l'avait pour nous, en fait. Personne ne l'avait écouté, donc c'était notre bébé qu'on avait pendant plus d'un an pour nous, avant de le faire découvrir. Et c'était assez hallucinant, parce que, en fait, dans toute cette période anxiogène qu'il y a eu avec le confinement, moi, ce que je trouve génial dans tout ça, c'est que pour la première fois, j'ai vraiment pris un recul de dingue sur un album, et d'avoir une même avec toute l'équipe, on est fiers de cet album, parce que
j'imagine,
c'est notre âme, on a mis notre âme dans cet album, nos tripes, ça raconte énormément de notre histoire, en fait, cet album, de ce qu'on a vécu. Il y a eu des hauts et des bas à traverser, en fait, pour pouvoir faire exister cet album. Et le jour où il est arrivé, en fait, c'est marrant, parce que moi, j'ai reçu l'album en physique, je l'avais dans les mains 10 jours avant sa sortie d'album, en fait. je l'ai pas eu avant. Donc ça a été vraiment hyper impressionnant. Et puis cet album devait exister sous forme d'un seul CD. Et avec la pandémie, on a pris la décision, en fait, quasi quelques mois avant, de sortir un double album avec 6 titres à Béraud en plus, pour offrir à nos fans qui ont été patients quasi plus d'un an et demi en attendant cet album, quoi. Donc,
Et pendant que tu nous disais tout ça, on écoutait les morceaux suivants. On va arriver à l'avant-dernier qui s'appelle Promises. Promise.
Promise.
Promise, pardon. Et puis ensuite, ça sera Perfect là-bas, hein. Avec un beau travail de Michal, encore une fois, pour le dobro, là, sur ce titre-là. On peut parler de la prise de son, c'était enregistré en Belgique, je crois, au studio ICP.
Oui, oui, oui. Alors, c'est marrant, parce que, par contre, tu parles de... Là, ce titre Promise, il a été enregistré, il y a une partie qui a été enregistrée dans le studio de Didier Théry, notre réalisateur.
D'accord.
Qui a réalisé l'album et qui a eu une place très, très importante en tant que réalisateur sur cet album. On avait déjà travaillé avec lui sur Black to Blue et c'est vraiment... c'est la famille Didier Théry, c'est quelqu'un qu'on admire et avec qui on adore travailler. Et du coup, Promise, c'est une composition qui a été faite par Michal. Et c'est rigolo parce que cette chanson, en fait, c'est vraiment une chanson qui a été écrite et composée pour les fans, pour les remercier, en fait, de leur soutien depuis tant d'années.
Et en plus, excuse-moi, on t'entendait plus, pardon.
Ah, pardon.
J'étais en train de remonter le son par rapport à ce que tu disais, ça sonnait parfaitement. Et j'ai l'impression qu'on peut inciter les fans à chanter, là encore, sur ce titre-là, particulièrement.
Mais sur tous les titres, sur tous les titres.
On continue avec la dernière plage de ce disque 1, parce qu'il y en a deux. Perfect, oui. Lullaby. Pendant ce temps-là, il y a des gens qui s'expriment sur le Facebook Sweet Home Chicago. Il y a Stéphane KLM qui dit « Steve Belmont est terrible à la batterie
». Thierry... J'espère qu'il écoute.
Thierry Langrand qui dit « Faire une musique qui te plaît et qui sort du cœur donnera toujours un super résultat ». Voilà, je ne sais pas comment on ne peut pas être d'accord avec ça. Stéphane KLM qui parlait de l'intro de batterie qui faisait penser au groupe Toto et puis qui disait de Perfect Floyd, c'était sa préférée. En live, ça devrait envoyer du lourd. Vivement la reprise des lives, nous dit Stéphane. Et puis Thierry qui conclut, vous avez tout donné sur cet album.
Ouais, bah, c'est vrai que bah, c'est bon, voilà, je sais pas si les garçons écoutent l'émission, mais c'est vrai que moi je suis vraiment super fière de l'énergie, de l'investissement que tout le monde a mis en fait dans cet album, que ce soit Michal, Steve, JB, Angela et puis Didier, quoi. Et Lorient aussi qui nous a fait des claviers de dingue. J'ai pas les mots pour détailler ça, mais je suis vraiment super fière de la synergie et l'osmose qu'on a réussi à avoir
Il va falloir un clavier sur scène, c'est pas possible autrement.
Mais il sera avec nous sur scène en tournée.
Ah, c'est prévu.
On a grandi l'équipe.
Génial.
Il revient avec nous sur nos prochaines tournées.
Super. J'ai une question de Thierry Langrand qui te posait une question sérieuse cette fois-ci, qui dit cet album, ton album est à tomber. Comment se sont construites les chansons? Est-ce que tu les as composées au début et tous les arrangements, magnifiques au passage, se sont construits au fur et à mesure avec toute la team et les amis? Comment s'est faite finalement la construction de chacune des chansons?
Alors, ça serait long à expliquer tout
ça. Oui, j'imagine.
En fait, il n'y a pas de règles dans la façon de composer, d'amener les chansons. C'est vrai que là, comme je disais, il n'y avait pas de cahier des charges. C'était voilà, on va faire un nouvel album. Et chacun avait des choses à proposer. Moi, j'avais des morceaux en guitare-voix. Les garçons, ils avaient des idées aussi en guitare-voix, des idées de riff, des idées de plein de choses. Et en fait, on a tout mis sur la table. Et c'était... même, on a enregistré plus de titres qui sont... Enfin, plus de titres que prévu. Il y avait, je sais pas, il y avait au moins plus d'une vingtaine de titres pour, en finale, en garder 11 sur l'aspect de l'album, de ce qui a été enregistré, en fait, à ICP et produit et réalisé par Didier Théry.
Voilà.
Et du coup... c'est compliqué d'expliquer toujours cette phase de création. Là, c'était vraiment tout le monde avait des choses à dire. Moi, j'avais des envies de thématiques aussi qu'on a abordées. Donc, j'ai pas de réponse précise par rapport à ça.
Très bien, je pense que Thierry va se contenter de ça, il n'y a pas de souci. Alors, rappelons que Your Journey, c'est pas seulement un album de 11 titres, mais également ce 6 titres Acoustic Session Recorded at Abbey Road Studio, avec deux titres refaits, réarrangés, j'allais dire, comme Perfect Foil et et Your Journey qui sont dans une autre instrumentation. Selfish Game qui faisait partie d'un album précédent, on l'a écouté tout à l'heure. Également Black Delta Dirt qui a été composé par Jean-Christophe Panico. Il y a 25 Hours. Et puis, tiens, je voulais te faire une petite dédicace. Je voulais juste savoir si tu allais reconnaître ça. Écoute bien. Bon, on est d'accord, t'étais pas né en 65, mais tu connais ça par cœur.
Je crois que c'est un groupe qui a repris un de nos titres, en fait.
Oui, exact. Qu'est-ce que ça a fait d'aller enregistrer quelques morceaux comme ça, comme vous avez pu le faire? Quelle expérience tu retires d'avoir travaillé à Abbey Road, à Londres?
Oh là là, bah tu vois, pareil, c'est des questions. C'est toujours difficile de dire ce qu'on ressent en ce moment-là parce que même, tu vois, ça va faire un an et demi qu'on a enregistré là-bas. L'émotion, elle est toujours hyper présente. C'était un truc de dingue. Déjà, tu passes cette porte où il y a écrit studio à Abbey Road, tu te demandes où t'arrives. Tu te dis, voilà, les plus grands sont passés par là. Et puis, nous, on se retrouve à marcher mettre nos pas sur les pas des créateurs, des classiques rock, de la pop et tout ça.
Et j'imagine aussi avec une photo sur les passages piétons, là.
Oui, oui, hein, on a marqué le coup, mais c'était dingue parce que je raconte ça à chaque fois, mais c'est vrai qu'on est rentré dans le studio, il y a la grande baie vitrée qui donne sur le grand studio 2, et tout le monde était super ému. Lorient, il avait les larmes aux yeux, on était tous émus de cette expérience, et surtout il y a une énergie qui se dégage de ce studio qui est hallucinante. Le premier titre qu'on a enregistré, c'est Selfish Game, et j'avais envie de pleurer à ce moment-là quand on enregistrait cette chanson, parce que c'est une chanson qui m'accompagne depuis plus de 10 ans, qui a une histoire très très forte, qui est très importante pour moi, et j'avais l'impression de pouvoir refaire vivre la personne pour qui j'ai écrit cette chanson à ce moment-là dans le studio d'Abbey Road, en fait. Donc c'était un grand moment, quoi. Chaque titre qu'on a enregistré, voilà. C'était fou, quoi. C'était dingue.
C'est ce qu'on entend actuellement. J'ai une question de la part de Daniel Zirotti qui te demande quel est le travail, s'il y a eu travail quotidien, d'entretien de ta voix durant cette période sans concert. Est-ce que, moi j'ai envie de compléter, est-ce que tu as pris des cours de chant? J'ai envie de rajouter, est-ce que tu as pris des cours d'orthophonie? Est-ce que tu as fait des exercices réguliers? Est-ce qu'il y a eu un rythme particulier pour les répétitions?
Oui, alors en fait, moi, j'ai même pendant la période de pandémie, en fait, j'ai continué à faire le même travail pour ma voix que je fais quand on est en tournée. Ouais. C'est-à-dire que toutes les semaines, j'avais mon prof de chant en visio, j'avais trois profs de chant en visio ou par téléphone, avec lesquels j'ai entretenu ma voix pendant toute cette période de confinement. Donc, je travaillais le lyrique, je travaillais ma voix saturée, je travaillais le chant indien pour l'aspect un peu plus énergétique et tout ça. J'ai vraiment continuer de travailler. Je me suis pas arrêtée, en fait, parce que je me suis dit, c'est justement dans des périodes comme ça qui sont un peu en plus anxiogènes, pas évidentes à gérer, où là, c'est un instrument, hein, la voix, et puis c'est un muscle, donc c'est comme les garçons, ils ont continué de travailler leur instrument dans des conditions qui n'étaient pas forcément faciles, hein. Mais oui, moi j'ai beaucoup travaillé ma voix, et même encore maintenant, toutes les semaines, je continue mes cours, en fait. Ça surprend toujours les gens, mais pour moi c'est important parce que c'est un organe qui n'a pas de limite, donc c'est-à-dire qu'on peut toujours le faire évoluer. Donc je le travaille sans cesse.
Gaëlle, durant le confinement, tu as pris l'habitude de donner rendez-vous à tes fans sur les réseaux sociaux. Je voulais savoir à quel point c'était important pour toi de garder le contact avec ton public. Tu as déjà évoqué ça tout à l'heure en début de l'interview, mais par rapport à cette présence que tu as eue sur les réseaux sociaux quasi constante, à quel point c'est important pour toi?
Bah, c'est important. Alors déjà, je préfère retrouver tous nos fans. Je préfère quand on les retrouve dans les salles de spectacle, parce que comme ça, on peut les voir physiquement et échanger avec eux. Et du coup, c'est beaucoup plus fort. Mais non, pour moi, c'est super important parce que on a eu 3 albums réalisés par des sites participatifs depuis l'album Black to Blue. Et toutes ces personnes nous suivent et nous encouragent et nous soutiennent, mais de dingue, depuis toutes ces années. Et aujourd'hui, ces gens sont encore là. Il y en a, ils nous soutiennent depuis 10 ans. Ils sont encore là aujourd'hui à nous soutenir. On a un parcours d'artiste indépendant, donc il n'y a pas écrit vu à la télé, tout ça. Ouais. Ces gens-là sont là, en fait, et nous donnent autant d'énergie qu'on leur donne. Et pour moi, c'est super important. En plus, c'est des gens qui sont tous super bienveillants, qui nous encouragent énormément. Et je pense que ça nous porte avec l'équipe. énormément pour continuer d'avancer, pour ça nous donne une force supplémentaire en fait. Je pense que sans eux, sans vous, même tu vois, les radios indépendantes qui nous suivaient depuis le début de cette aventure, on serait pas ici de la même façon. Est-ce qu'on serait là encore aujourd'hui aussi, tu vois, parce que c'est important d'avoir le soutien des gens, c'est ce qui nous pousse vraiment à dépasser notre folie aussi des fois dans la création, et c'est que on se sent moins seul dans l'aventure. Et là on se dit, à chaque fois qu'on avance, à chaque fois qu'on passe une étape, on a envie que la partie du rêve que nous on réalise en avançant dans notre vie d'artiste, c'est aussi réaliser une partie peut-être du rêve de chacun de nos fans dans cette aventure. Et du coup pour moi c'est super important, et pendant l'année de confinement nos fans ils nous ont beaucoup soutenus, ils ont été là et on a reçu énormément de mots en message privé de gens qui voulaient mettre en place des choses pour nous soutenir, parce que c'est vrai que pour les intermittents c'est catastrophique en fait ce qui se passe, c'est vraiment c'est tragique même.
C'est tragique,
et du coup on s'est dit non, on doit continuer à se maintenir, on doit continuer à faire des choses, on doit rester positif, et c'est pour ça aussi qu'on a pris la décision de sortir cet album même en pleine pandémie, parce que pendant cette année où les gens ont été très présents pour nous, on s'est dit que cette année c'était à nous de prendre le relais, parce que voilà, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on va reprendre la route des concerts, mais on a besoin de voilà, je pense qu'on fait une balance entre eux et nous pour trouver l'équilibre et avancer ensemble.
Ça sera ma toute dernière question tout à l'heure, Gaëlle, mais j'en ai une juste avant. Je voulais revenir sur cette interview que tu as accordée avec Laura Cox et Héroclo dans le magazine Guitar Part, dont tu fais la couverture. À un moment donné, le journaliste vous demande, toutes les trois, parce que toutes les trois vous êtes amenées à répondre aux mêmes questions, vis-à-vis de ce cliché fille à l'acoustique, garçon à l'électrique, est-ce qu'il y a une part de revendication, d'empowerment à s'emparer de la guitare électrique? Et là, tu réponds, ce sont les gens qui en ont fait un cliché. Peut-être parce que l'acoustique a un côté plus féminin, mais il ne devrait pas y avoir ce genre de cliché. Et avec une guitare acoustique, tu peux être très rock aussi, c'est juste une question de mentalité et de culture. Toutes ces représentations, il faut les faire exploser. Voilà. Je te cite, Gaël, je me suis permis ça. Je voulais savoir si tu avais des choses à ajouter par rapport à tous ces clichés qui sont véhiculés autour de la fille à la guitare, pour qui il y a certaines personnes qui pensent que c'est pas vraiment la place d'une fille, quoi.
Oui, mais moi, j'essaye de me mettre dans une position plutôt positive que prendre la part de l'un ou de l'autre. Ouais. C'est de me dire qu'en fait, tout ça, c'est parce que nous, on est dans un entourage, en plus, on se côtoie énormément, les femmes musiciennes, on se connaît toutes, et elles sont hyper nombreuses, en fait. Donc, je pense que ça fait partie des clichés, comme il y a des clichés sur toutes les thématiques, en fait, à chaque fois. Donc, nous, ce qu'on veut à travers des magazines comme on a fait avec Guitar Part, et puis il y a plein de choses, en fait, c'est marrant, parce que ce magazine a déclenché plein de choses. Je suis contactée par des associations pour la place de la femme dans la musique et tout ça.
D'accord.
Donc, pour défendre des choses, et en fait, c'est je pense que c'est un air du temps où des fois j'ai l'impression qu'on revient en arrière, de se dire la place de la femme, elle ne devrait pas être comme ça ou quoi que ce soit. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, notre place de musicienne, elle est là, on n'est peut-être pas là par hasard, mais elle est autant justifiée que les hommes, et je pense qu'il y a autant de femmes que d'hommes, et que c'est juste une question de personnalité et tout ça. Tu vois, moi, je travaille avec une équipe d'hommes depuis des années, j'ai choisi de travailler avec eux, et ça se passe très très bien. Et du coup, moi, j'ai envie de faire, c'est plus des clichés que j'ai envie de faire exploser, et de me dire que toutes les petites, les gamines qui vont grandir, elles ont leur place dans n'importe quel métier, en fait, même si on dit que ce métier, il est peut-être plus fait pour un aspect masculin ou quoi que ce soit, mais c'est aujourd'hui, il n'y a plus de règles, en fait. Il n'y a plus de normalité dans tout ça, donc je pense que moi, j'ai juste envie de faire exploser les choses dans le sens où faites ce que vous aimez, en fait.
Très bien, mais ça sera peut-être presque le mot de la fin, Gaëlle. Je voudrais te remercier déjà pour toute cette gentillesse, cette générosité que tu déploies à travers cette interview et d'une manière générale à travers tout ce que tu fais en musique ou en autre chose. Je voulais te demander la toute dernière question. Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter à toi et à toute ton équipe pour cette année 2021 qui aura commencé comme 9 mois de 2020, c'est-à-dire sans concert? Qu'est-ce qu'il faut te souhaiter en dehors du fait de remonter sur scène très très vite, de retrouver tous tes fans en direct live, bien sûr, en chair et en os, pour cet album dont la promotion commence à prendre vraiment de l'épaisseur? J'ai l'impression que tu y travailles énormément sur cet album V-Records. Moi, je te souhaite le meilleur du monde, mais pour toi, le meilleur du monde, c'est quoi?
Bah, écoute, tu sais quoi, bah, moi j'ai envie qu'on puisse continuer d'exister avec toute mon équipe, avec notre musique. Et c'est surtout, là, je pense que je parle au nom de tous les indépendants, des artistes indépendants. J'aimerais énormément que cet album, Une autre journée, il arrive à rentrer vraiment dans la cour des grands et qu'avec notre musique qui ne rentre pas dans des cases, on arrive vraiment en fait à toucher peut-être des gros médias qui prennent le risque de parler d'artistes indépendants et qu'on puisse avoir notre place comme tous les autres artistes ont leur place en fait.
C'est ce que je te souhaite aussi.
On aimerait vraiment avec cet album passer une grosse étape et au nom de tous les artistes indépendants d'arriver à pouvoir les représenter avec, avec cet album qui commence à prendre une ampleur plutôt sympa.
Plutôt sympa. Merci pour tout ça, merci vraiment Gaëlle pour du fond du cœur.
Franchement à vous et des gros bisous à tout le monde, à tous les auditeurs.
Merci. À très bientôt.
À bientôt.
Younger, so much younger than today. Never needed anybody's help in any way. And now those days are gone. I'm not so self-assured.
Ça fait partie du CD numéro 2 de ce Your Journey. Merci encore à Gaëlle Busvel pour cette belle interview. On a un petit peu débordé les derniers titres. On les passera la semaine prochaine, c'est pas grave. La semaine prochaine, ça sera Jean-Jacques Milteau, l'invité dans Sweet Home Chicago. Salut, bye bye.